Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Dernier jour de la visite de la mission du Forum des îles du Pacifique. Ses membres ont multiplié les rencontres et entretiens pour comprendre la situation après les émeutes. Une grande surface et un centre commercial, l'Hyper U de Païta a ouvert ses portes ce matin. Il était très attendu par les habitants de la commune. Dans une semaine, les Américains devront choisir leur président entre Donald Trump et Kamala Harris. Éclairage sur les enjeux du scrutin et les derniers jours de campagne dans ce journal. Premier jour de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, la France a signé 10 milliards d'euros de contrats, notamment dans les domaines ferroviaires, de l'énergie et de l'aéronautique. Et puis une petite surprise en football pour le Ballon d'Or 2024, il a été attribué à Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi du magazine Citoyen aux alentours de midi. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François.
Un magazine citoyen consacré cette semaine aux examens de fin d'année.
Oui, puisque c'est la dernière ligne droite avant la fin de l'année scolaire, une année extrêmement perturbée par les émeutes avec plusieurs semaines sans cours. Alors comment préparer cette fin d'année? Comment ça se passe pour les classes à examen? Ce sera le sujet du magazine Citoyen ce midi. Nous en parlerons notamment avec le vice-recteur Didier Vindatiche, avec Isabelle Amiot, chef de l'inspection pédagogique au vice-recteur, avec Julien Leray, chef de la division examen et concours au vice-rectorat. Et puis nous serons également en studio avec Sylvain Once, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Rendez-vous donc en fin de ce journal.
C'est aujourd'hui le troisième et dernier jour de la mission des îles du Pacifique sur le territoire. Les premiers ministres des Tonga, des Cook et des Fidji et le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon sont en Calédonie pour recueillir des informations et mieux comprendre la situation générée par les émeutes. Pour cela, ils ont eu des entretiens et des visites de terrain avec toutes les parties prenantes pertinentes pour la résolution de la crise en Nouvelle-Calédonie. Ils sont d'ailleurs censés soutenir les efforts en cours de l'État et du gouvernement pour appeler à la paix et à la stabilité, à la désescalade des violences en cours et à la promotion du dialogue entre les parties. Ce matin, les membres de la mission ont eu plusieurs rendez-vous à la CPS. Ils ont rencontré les autorités religieuses avant d'échanger avec le monde de l'enseignement, puis avec les associations de maires et les maires de l'agglomération. Ils se sont ensuite entretenus avec le comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation avant un échange avec les représentants des femmes. Cet après-midi, avant leur départ, les membres de la mission s'entretiendront avec le haut-commissaire Louis Lefranc et avec l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Ils se rendront enfin sur le terrain, notamment au lycée Petro Atiti, pour observer des dommages causés lors de la crise avant de quitter la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, les loyalistes reviennent sur l'entretien qu'ils ont eu avec cette mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Ils indiquent, Elisabeth Nord, que ce temps d'échange a permis de partager un discours de vérité.
Les loyalistes ont évoqué les causes qui ont mené à la situation actuelle en soulignant le rôle central et mortifère qu'a joué la CCAT. Ils écrivent que cet entretien était l'occasion pour eux de revenir sur les nombreux mensonges partagés par les indépendantistes radicaux et de rappeler que ces derniers ont trahi leur parole en dénigrant l'accord de Nouméa qu'ils ont pourtant signé. Face aux membres du forum, les loyalistes ont aussi insisté sur les nombreuses attaques racistes et xénophobes perpétrées par les membres de la CCAT. Ils ajoutent que dans cette logique de transparence, ils ont expliqué que la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une politique sociale très développée pour la région, avec notamment une école obligatoire et gratuite, des bourses d'études et des aides au logement, un accès aux soins gratuits pour les plus modestes et des dispositifs d'insertion pour les jeunes en difficulté. Ils ont expliqué que, contrairement à ce que certains indépendantistes laissent entendre, le peuple kanak n'est ni marginalisé ni maltraité, mais qu'il est au contraire l'un des plus avantagés de notre région océanienne. Les loyalistes sont aussi revenus sur la situation dramatique que vivent aujourd'hui les Calédoniens, notamment au Mont d'Or, et ils ont rappelé leur attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Ils ont enfin rappelé à la délégation du Forum que les Calédoniens se sont exprimés à de multiples reprises de manière libre, souveraine et éclairée pour rester français dans le cadre d'un processus connu de tous et salué par les plus hautes instances internationales.
Et les loyalistes précisent enfin qu'ils ont indiqué à la mission d'observation du Forum des îles du Pacifique qu'ils attendent qu'elle traduise de manière impartiale les événements qui se sont déroulés après le 13 mai, tant pour les causes et pour les conséquences.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier et 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre un risque d'ingérence de la part de la mission du Forum des îles du Pacifique. Ils sont 25% à penser qu'elle vient s'informer objectivement de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Voici notre question du jour. Alors que la métropole vient de passer à l'heure d'hiver, pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie doit elle aussi se poser la question du changement d'heure? Si vous pensez que la Calédonie doit se poser la question d'un changement d'heure, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Revenons à l'actualité dans la région un instant avec cette annonce du Japon qui veut accroître ses relations commerciales avec les pays et territoires du Pacifique Sud. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
17 investisseurs nippons sont actuellement à Suva dans le cadre d'un séminaire régional organisé par le secrétariat général du Forum des îles du Pacifique, séminaire dont l'objectif est de poursuivre la coopération du Japon avec les États insulaires du dit forum. Celui-ci a précisé que le séminaire en question devrait promouvoir la coopération et l'intégration régionale par le biais du commerce, des investissements, du tourisme et de la croissance des industries locales, notamment dans les secteurs de la pêche, l'agriculture et la gestion forestière. L'initiative a été saluée par l'ambassadeur du Japon aux îles Fidji. Toute vision destinée à soutenir l'amélioration du bien-être social des populations insulaires doit être encouragée, a-t-il dit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et notez qu'un séminaire à Fidji auquel participe une délégation calédonienne emmenée par NCT Anai. Revenons sur le territoire avec la réunion ce soir du conseil municipal de Dembéa à 17h30. Parmi les 16 délibérations à l'ordre du jour, les élus devront adopter la décision modificative numéro 2 du budget principal. Le conseil municipal de Païta se réunit lui aussi ce soir à 17h30. Il sera dédié au PUD de la ville, puisque les élus devront adopter une délibération arrêtant et rendant public ce PUD. Ce plan d'urbanisme directeur élaboré depuis plusieurs années par la commune. Païta, qui possède désormais son centre commercial et son hypermarché. La commune avait été parmi les plus impactées par les émeutes du 13 mai et les habitants devaient se déplacer parfois loin pour se réapprovisionner. L'ouverture de l'hyper-U est donc particulièrement bienvenue, Léana Colombo.
En projet depuis une dizaine d'années, l'ouverture de ce centre commercial près de l'arène du Sud ne pouvait pas mieux tomber. Depuis les émeutes, seuls restaient quelques commerces de proximité, trop justes pour les familles ou les habitants avec des besoins spécifiques. Avant même l'ouverture à 8h, c'était l'effervescence et les quelques 500 places de parking étaient déjà prises d'assaut. Pour Ronan Délé, président du syndicat des commerçants, c'est une ouverture qui va faire du bien aux habitants mais aussi aux commerçants.
Les gens du village de Païta attendaient avec impatience parce qu'ils ont quasiment tout perdu au niveau commercial depuis les émeutes du mois de mai. Et on le voit là, dès 8h du matin, même avant 8h, il y avait déjà des gens qui attendaient pour rentrer. Puis pour avoir échangé avec des clients dans le centre, effectivement, ils sont vraiment heureux parce qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Que ce soit des gens qui descendent du nord, de Tontouta, ou alors qui habiteraient dans les zones de Naya, de Tiaré, etc. Il y a énormément de gens dans cette zone et il était vraiment important, je pense, qu'un centre de ce type ouvre pour pouvoir désengorger également les commerces, même de Dembéa, voire de Nouméa, qui depuis les émeutes, en fait, il y a eu un rebattage des cartes un petit peu suite aux destructions avec un afflux de clientèle dans d'autres centres commerciaux. Ça va permettre de mieux étaler justement l'afflux de clientèle et c'est une très bonne chose pour la Calédonie. Ça redonne vraiment de l'espoir de voir l'activité économique repartir de la sorte.
Ce nouvel espace est composé d'un hyper-U où 110 personnes sont employées. Près de 50% viennent d'ailleurs de Païta et des alentours. 27 commerces, un food court et des magasins éphémères viennent compléter ce centre commercial de plusieurs milliers de mètres carrés. Ce matin, les curieux venaient de Païta, mais pas uniquement, et ils se disent soulagés de cette ouverture.
Je vis sur Nouméa, mais mes parents habitent Karikaté, donc je connais très bien Païta. C'est super, oui, pour les habitants de Païta, surtout avec ce qui s'est passé lors des événements. Et c'est vrai que c'est assez grandiose, j'ai envie de dire, surtout sur Païta, avoir une galerie commerciale avec autant de magasins, autant de choix, c'est génial.
Ça fait du bien d'avoir un hypermarché, hein. C'est pas un supermarché.
Pourquoi être venu de Nouméa ici ?
Ben, c'est déjà voir la différence qu'il y a par rapport au prix. Ben, c'est bien pour la population de Païta, hein. Et puis même pour Nouméa aussi, hein. Faut pas croire, c'est tout le monde qui est touché par rapport à ce qui s'est passé.
D'habitude, je vais vers Nouméa, Leader Price, Dabia Mall, Majata, Discount, c'est quand même loin par rapport à ici, Païta. Donc c'est plutôt bien. Comme ça, moi, je peux faire ma marche de chez moi, c'est pas loin.
Plusieurs commerces qui étaient présents dans la zone de Kenwin et qui ont subi les exactions ont pu être relocalisés dans ce nouveau centre commercial. Notez qu'il s'agit du 4e hypermarché du territoire.
Et l'ouverture de cette hyper-U à Païta est une très bonne nouvelle pour la commune, nous a dit son maire Marilyn D'Arcangelo.
D'une manière générale, je suis ravie de voir l'ouverture de l'hypermarché se concrétiser enfin. parce que cela représente une nouvelle dynamique économique et des perspectives positives pour la commune. En fait, c'est un véritable bol d'oxygène pour ses habitants. Et j'espère que ça apportera une voie d'ouverture à une nouvelle centralité qui était très chère au cœur du maire que j'ai remplacé et verra arriver d'autres services et d'autres ouvertures de commerce, etc. C'est vrai que depuis les exactions, il n'y a plus rien sur la commune. Il y a quelques petits commerces de proximité, mais sinon les gens doivent aller au minimum jusqu'à Dindéa pour pouvoir faire leurs courses. Donc effectivement, c'était très attendu et nous sommes vraiment ravis de ce magnifique centre commercial qui s'ouvre. Et ça apporte aussi une belle modernité dans Païta.
Marilyn D'Arcangelo, le maire de Païta.
Radio Rythme Bleu, 11h41.
Au chapitre des faits divers, un accident de la route la nuit dernière à Poya. Un homme visiblement sous l'emprise de l'alcool a fait une sortie de route un peu après minuit. Il roulait bien au-dessus de la limite de vitesse sur la route de Népouy dans le sens sud-nord. Après l'impact, il a été évacué vers le CHN de Conné. Il présentait un traumatisme crânien. Toujours en bref, une légère évolution du réseau Tanéo à partir du 1er novembre. Les 11 lignes proposées par le réseau de transport sont maintenues, mais avec une nouveauté. La ligne 8 assurera désormais des rotations entre la place de la Moselle et l'Ansvata, mais uniquement la semaine. Et puis la Nouvelle-Calédonie reste un territoire plébiscité par les chercheurs scientifiques internationaux. C'est le constat dressé par l'IRD qui motive le gouvernement à lancer un concours d'idées pour la construction de la future cité de la connaissance, Charlotte.
Un centre de recherche et d'excellence dans lequel pourraient se retrouver les scientifiques du territoire et du monde entier. Le complexe serait basé au bord de la mer, à Nouville, en contact direct avec la biodiversité locale. L'appel à idées lancé aujourd'hui a donc vocation à trouver des fonds pour financer sa construction. Jérémy Cathy Joe Monnier est membre du gouvernement chargé de la transition écologique et coordonne ce projet.
Ce matin même, un concours à idées a été lancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont un des sujets donc, est la Cité de la Connaissance, qui sera un lieu sur le campus de Nouville, qui permettra à la fois à l'université de disposer d'un nouvel amphi, par exemple, mais aussi d'avoir des lieux touristiques en lien avec la biodiversité, mais aussi des labos de recherche qui permettront à la fois à la recherche, mais aussi aux start-upers calédoniens, d'avoir des lieux de travail pour travailler ensemble sur des projets liés à la recherche. Ce que le gouvernement souhaite, c'est d'avoir des images, des idées pour porter auprès des différents bailleurs de fonds nationaux, internationaux, instituts de recherche, agences de développement, ce projet et trouver les fonds nécessaires pour sa réalisation. Ensuite.
Avis donc aux architectes, aux ingénieurs ou aux scientifiques locaux. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour candidater. Les 4 premiers lauréats recevront des prix allant de 400 000 francs à 1,5 million. Le règlement du concours est disponible sur le site marchépublicaupluriel.nc.
11h43, la suite du journal dans un instant avec un focus sur l'élection présidentielle américaine. Le vote a lieu dans une semaine maintenant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Vous cherchez l'énergie instantanée avec une touche de délice ? Rechargez votre journée avec les parfums irrésistibles Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original.
Plongez dans l'arôme riche du café Nescafé. Boostez votre énergie avec nos boissons prêtes à déguster.
Avec Nescafé Mocha, Nescafé Latte et Nescafé Original, préparez-vous pour un moment de bonheur caféiné.
Nescafé, rechargez-vous.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une page consacrée à l'actualité à l'étranger, notamment un focus sur les élections présidentielles américaines. Si le vote par correspondance a débuté dans certains États, la majorité des Américains votera le 5 novembre prochain pour élire les grands électeurs qui désigneront le vainqueur de cette élection entre le républicain Donald Trump, qui brigue un second mandat, et la démocrate Kamala Harris qui supplée Joe Biden, le président sortant, qui a jeté l'éponge en juillet dernier. Un cas de figure inédit dont nous avons parlé ce matin avec notre invité à 7h30, Gaël Lagadec, professeur des universités en sciences économiques, spécialiste des USA et notamment de la compétitivité électorale.
Ce n'est pas comme on pourrait le penser, un affrontement de programme. L'affrontement programmatique est là, bien sûr, mais plutôt sous-jacent, car Donald Trump est surtout dans l'outrance, avec des meetings qui sont de plus en plus outranciers, encore cette nuit, avec de nombreux dérapages. Et Kamala Harris a du mal quand même à endosser l'héritage de Joe Biden, parce que pendant 4 ans, elle a été vice-présidente. Et même si des indicateurs économiques sont plus performants aux États-Unis qu'il y a 4 ans, sur l'ensemble du mandat, l'inflation était de 20%. Donc ça touche de plein fouet les plus pauvres. Et parmi les plus pauvres, il y a nombre d'électeurs issus des minorités hispaniques ou afro-américaines qui ont tendance historiquement à voter largement démocrate, mais dont le vote et le soutien à Kamala Harris s'érodent, essentiellement pour ces questions de pouvoir d'achat.
Chaque candidat a sa stratégie électorale. Celle de Donald Trump n'est pas seulement faite d'outrances ou de déclarations tapageuses, ou en tout cas, elles servent un but précis, a expliqué Gaël Lagadec.
Il vise dans les minorités plutôt les hommes jeunes. On parle d'ailleurs de gender gap, c'est-à-dire que, grosso modo, les femmes votent à 55% pour Kamala Harris et à 40% pour Trump, et pour les hommes, c'est inversé. Et Trump, il essaye de faire croître la participation chez les hommes d'une trentaine d'années dans les minorités, notamment en allant à la rencontre des youtubeurs masculinistes, ce qui participe à l'outrance du personnage, mais ce qui lui permet aussi de faire rentrer dans peut-être le jeu électoral une frange de la population qui n'y était pas. Et une frange même marginale peut faire basculer l'élection dans quelques états clés, ce qui suffit à verrouiller l'élection nationale.
À une semaine maintenant du scrutin, les sondages donnent les deux candidats au coude à coude, mais comme c'est souvent le cas, les sondages peuvent se tromper de 1 ou 2, voire 3 points dans un sens comme dans l'autre. Et nous avons demandé à Gaël Lagadec si la dernière semaine de campagne avant le vote pouvait encore faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre.
Il reste une petite marge d'électeurs qu'on dit indépendants, qui sont en général la clé des scrutins. Il semble d'ailleurs pencher davantage ces derniers jours pour les Républicains. La marge d'évolution est maintenant très faible. Il y a quand même des possibilités en lien avec le conflit au Proche-Orient, puisque je parlais du Michigan tout à l'heure, on y a une très forte communauté musulmane qui est traditionnellement démocrate, mais qui se détourne massivement de l'administration démocrate pour son soutien à Israël. Et si on avait une aggravation du conflit, c'est autant de voix retranchées indirectement aux démocrates. Alors, c'est des glissements, mais on n'imagine pas une énorme surprise, même si c'est possible. On a eu 3 attentats contre Trump, 3 tentatives. À chaque fois, ça a quand même semblé lui porter chance,
lui réussir.
Donc s'il y avait un 4e attentat, puis vous savez, aux États-Unis, il y a quand même une forte prégnance religieuse. Le fait que la balle de la première tentative, la plus grave, lui ait touché l'oreille, plein d'électeurs considèrent que c'est Dieu qui a dévié la balle au dernier moment et que donc Trump a en fait une vocation quasi divine. Donc c'est des éléments certainement irrationnels, mais qui se traduisent quand même d'une façon ou d'une autre, en partie par le vote.
Gaël Lagadec, professeur des universités en sciences économiques, spécialiste des USA, qui était notre invité ce matin. Une interview qui est à retrouver dans son intégralité sur notre site internet. Restons à l'étranger avec le premier des 3 jours de déplacement d'Emmanuel Macron au Maroc. Une visite officielle pour renouer un dialogue difficile depuis quelques années, notamment en raison de divergences sur les questions d'immigration et d'expulsion de Marocains de France. Mais au premier jour de cette visite, ce sont les questions économiques qui ont été traitées avec la signature de plusieurs contrats. Baptiste Morin pour Europe 1.
Une 50aine de chefs d'entreprise ont fait le déplacement au Maroc aux côtés d'Emmanuel Macron. Parmi eux, Laurent Germain, le directeur général d'Egis, et Henri Poupard-Lafarge, le directeur général d'Alstom. Et ce sont donc leurs 2 groupes qui ont signé ce soir des accords pour réaliser l'extension de la ligne de train à grande vitesse qui reliera Tanger à Marrakech pour la Coupe du Monde 2030. Le Maroc co-organise la compétition avec l'Espagne et le Portugal. Alstom va aussi fournir des rames de TGV. Le montant de chacun des accords n'a pour l'heure pas été détaillé. D'autres d'autres signatures de contrats sont attendues demain mardi. On sait par exemple que la compagnie nationale Royal Air Maroc veut multiplier sa flotte d'avions par 4 d'ici 2030. Airbus pourrait profiter des déboires de Boeing et rafler la mise. Des annonces sont aussi pressenties concernant Engie, notamment au sujet de projets éoliens et solaires dans le Sahara.
Baptiste Morin pour Europe 1. À 11h50, on va marquer une nouvelle pause avant de se retrouver pour voir ce qui fait l'actualité en métropole et notamment cette polémique naissante autour du dernier livre de Jordan Bardella. On se retrouve dans un instant.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Attention, ça y est, la nouvelle station mobile de Magenta ouvre ses portes. Carburant de qualité, boutique, service au top. Et ce n'est pas tout. À partir du mardi 15 octobre, participez à notre grand jeu Machine à soude et votre passage en caisse. Un plein, un achat, vous êtes éligible. À vous de tenter votre chance. À gagner, des bons d'achat en carburant de 10 000 francs et plein de surprises. Ne manquez pas l'ouverture de la station mobile de Magenta et repartez peut-être gagnant. Rendez-vous dès maintenant dans votre nouvelle station. Mobile, toujours à vos côtés. Découvrez le panuzzo, le sandwich italien par excellence. Du pain artisanal croustillant, garni de charcuterie italienne, fromage fondant et légumes frais. Une explosion de saveurs. Le panuzzo, l'Italie dans un sandwich. Chez Etna Pizza, 89 route de Lanzvata, de 11h à 14h. Téléphone 70 00 60.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Et le Premier ministre a été opéré il y a quelques jours. L'annonce faite par le médecin de Matignon a créé la surprise. Michel Barnier a été opéré d'une lésion cervicale. Matignon précise que le Premier ministre va bien, que l'opération s'est bien passée. Il a d'ailleurs repris le travail et sa première apparition publique après son hospitalisation est prévue jeudi pour le Conseil des ministres. L'actualité en métropole, c'est aussi cette polémique naissante autour du dernier livre de Jordan Bardella. Il n'y aura pas de campagne de publicité pour ce livre dans les gares et les stations de métro. La régie Médiatransport l'a en effet refusé au motif que le visuel serait contraire au principe de neutralité. Mais le président du Rassemblement national y voit surtout la pression des syndicats d'extrême gauche, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Le président du Rassemblement national exprime sa profonde indignation et demande à la SNCF de revenir sur ce qu'il qualifie d'acte de censure inadmissible. Le cas échéant, dit-il, des recours par voie légale seront engagés. Alors cette décision intervient, il est vrai, après que plusieurs syndicats de la SNCF ont dénoncé une campagne publicitaire au service, je cite, d'un parti d'extrême droite. Après avoir menacé de se mobiliser pour l'empêcher, tous se sont félicités de la décision prise par Médiatransport. L'entreprise, de son côté, nie tout parti pris idéologique. Cela aurait été le cas avec n'importe quel autre chef de parti. Nos règles sont connues, on ne fait pas de campagne pour des ouvrages qui possèdent un caractère politique ou religieux, appuie la société. Un argument qui fait grincer des dents au RN, car le parti de Jordan Bardella cite les campagnes publicitaires des livres de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. En contre-exemple, deux ouvrages dont Médiatransport justifie d'avoir fait la campagne dans les gares en raison de la fonction de leurs auteurs, deux anciens présidents à leur sortie du jeu politique.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette enquête ouverte après la mort d'une jeune femme de 25 ans à Montpellier. Elle avait appelé à plusieurs reprises les secours, SAMU et pompiers pour signaler qu'elle avait mal à la main. Les services de secours ne se sont pas déplacés et la jeune femme est morte quelques jours plus tard d'une méningite aiguë. Jean-François Sibien est le vice-président du syndicat SAMU Urgence de France.
J'ai 30 ans de métier. Si vous m'appelez pour me signaler que vous avez une douleur à la main, le diagnostic de méningite, en toute honnêteté, ne me vient pas à l'esprit, mais même pas dans un deuxième ou dans un troisième temps. Le tableau d'une méningite, c'est quelqu'un qui a un trouble de la conscience, des maux de tête. Mais voilà, c'est là où on fait un métier très, très difficile. Après, la médecine, c'est pas une science exacte.
La plainte déposée va permettre d'écouter les enregistrements des appels de la victime et de déterminer s'il y a eu d'éventuels manquements de la part de ses interlocuteurs. Le procès de Gérard Depardieu a été reporté au mois de mars prochain. L'acteur de 75 ans devait comparaître la nuit dernière pour nous pour une double agression sexuelle en 2021, mais il n'était pas présent pour des raisons de santé. L'audience a donc été renvoyée. Jean-Baptiste Marty.
Une demande formulée dès le début de l'audience par l'avocat de l'acteur français, Gérard Depardieu, souffrant de diabète et de problèmes cardiovasculaires. Sur demande du président, il devra se soumettre à une expertise médicale pour cette prochaine échéance, donc dans 5 mois. Échéance allongée cette fois-ci car l'homme de 75 ans sera jugé sur 2 jours et non sur une demi-journée comme c'était initialement prévu. Cela permettra d'interroger de nouveaux témoins en plus des 8 déjà convoqués. Une petite victoire pour Maître Assous, avocat de Gérard Depardieu.
Là, nous aurons le temps de citer tous les témoins qui ont été volontairement et délibérément écartés par le ministère public. Et donc, une fois qu'ils comparaîtront, la vérité éclatera, à savoir que Gérard Depardieu est victime d'accusations totalement mensongères.
Un renvoi également approuvé par les parties civiles pour qui il était important d'affronter l'homme de cinéma, Amélica, l'une des deux plaignantes.
J'espère qu'il sera là, qu'il aura le courage d'être là, parce que nous, on est là. Et on dit toujours la même chose depuis le début, on est prête à se confronter à M. Depardieu, qui dise enfin la vérité.
S'il est reconnu coupable, Gérard Depardieu encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
On va terminer ce journal par l'actualité sportive dans un petit instant avec cette surprise, petite surprise pour le Ballon d'Or 2024. On voit ça dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. En ce moment, Dacia vous surclasse. Pour le prix du modèle Life, repartez avec le modèle supérieur Life Plus. Chez Dacia, vous montez en gamme sans dépenser plus. Pour le même prix, vous avez plus d'équipement. Rendez-vous chez Dacia au 4e kilomètre pour vous faire surclasser. Et à vous, le Dacia Duster Life Plus à 1 995 000 francs et Dacia Sandero Life Plus à 1 895 000 francs. Renseignements sur notre page Dacia Nouvelle-Calédonie. Possibilité de financement sur place, offre dans la limite des stocks disponibles. Protégeons notre pays, économisons en énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
En football, l'Espagne a donc dominé la cérémonie du Ballon d'Or ce matin pour nous. Rodri a remporté la distinction chez les hommes pour la première fois de sa carrière. Et Aitana Bonmatí a conservé sa couronne chez les femmes, Nicolas Legrand.
Oui, une cérémonie qui avait été boycottée par le Real Madrid, estimant qu'aucun de ses joueurs n'était en capacité de recevoir la prestigieuse distinction lors de cette cérémonie parisienne. Pourtant, beaucoup de commentateurs voyaient bien Vinicius Junior décrocher le prestigieux trophée. La cérémonie aura donné raison au club espagnol puisque Vinicius a échoué à la deuxième place malgré une superbe saison. C'est donc Rodri qui soulève le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Joueur à la fois solide, élégant et doté d'une excellente vision de jeu du haut de son 1m90, il est incontestablement l'un des meilleurs milieux défensifs au monde. Le joueur de Manchester City est notamment récompensé pour sa victoire à l'Euro avec l'Espagne. Il avait d'ailleurs été élu meilleur joueur de cette compétition. Ce matin, il est arrivé sur la scène avec ses béquilles puisqu'il est actuellement blessé. Ému aux larmes, il a pris la parole pour remercier à la fois sa compagne, son club et ses coéquipiers.
Une soirée incroyable pour moi. Permettez-moi de m'adresser à vous en ma langue maternelle, l'espagnol. Je crois que ce trophée consacre non seulement ma victoire, mais la victoire du foot espagnol et de la figure du milieu de terrain. J'ai eu énormément d'amis qui m'ont envoyé des messages de soutien pour me dire c'est le foot qui a gagné. Et donc merci infiniment du fond du cœur à tous ces milieux de terrain, à tous ces mots, car nous sommes souvent éclipsés par d'autres placements, mais aujourd'hui, voilà. Nous sommes en pleine lumière.
Et voilà donc pour la première réaction de Rodri, Ballon d'Or. Le premier Français est sixième, il s'agit de Kylian Mbappé. Quant à William Saliba qui évolue à Arsenal, il se classe 24e.
Une information en football encore parce qu'on a appris ce matin qu'il n'y aurait pas de club calédonien en Coupe de France.
Oui, une annonce faite par la Fédération française de football. L'instance explique qu'en Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des compétitions étant annulées jusqu'à la fin 2024, la Ligue calédonienne, l'édition de la Fédération calédonienne ne participera pas à l'édition 2024-2025 de la Coupe de France. Pour rappel, l'an dernier, Yengen s'était incliné 4-0 dès son entrée en lice au 7e tour contre Thionville.
Et on termine par le tennis et cet exploit d'Adrian Manarino sur le Rolex Paris Master.
Oui, le triple vainqueur des internationaux de Nouméa a sèchement battu l'américain Tommy Paul, 12e mondial pour se qualifier pour le 2e tour à Bercy. Une victoire en 2-7, 6-3, 7-5. Avant cela, Hugo Humbert avait battu en 3-7 l'américain Brandon Nakashima, 6-3, 4-6, 6-4. Victoire plus expéditive d'Arthur Rinderknecht face à Thomas Matschach. Le français avait perdu le premier set avant que le Tchèque ne déclare forfait, visiblement touché à la cheville. En revanche, Quentin Alice s'est incliné face à l'Argentin Francisco Cerundolo.
Il est midi, on vous retrouve dans un petit instant, Nicolas, pour le magazine Citoyen. Il est consacré cette semaine aux examens de fin d'année.